Oxygène. Les grandes causes nationales qui font débat. Oxygène. Les grandes causes nationales qui font débat.
Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette émission. Notre invitée aujourd'hui est Lucie Anzivino, chargée d'études auprès de l'Observatoire régional de santé Auvergne-Rhône-Alpes. Bonjour Lucie et merci d'avoir répondu à notre invitation.
Bonjour.
Alors nous allons aborder ensemble l'évaluation d'impact sur la santé dans un programme de rénovation urbaine au regard de l'exemple des Villeneuve de Grenoble et des Chirolles en Isère. Avant tout Lucie, dans quel cadre le programme de rénovation urbaine des Villeneuve de Grenoble et des Chirolles a-t-il été lancé? Et pourquoi avoir choisi l'évaluation d'impact de la santé, le IS, comme conduite de projet?
Alors, il faut savoir que les Villeneuve de Grenoble et les Chirolles, c'est un quartier défavorisé, qui est le symbole même des grands ensembles des années 70. Et donc qui fait l'objet de plusieurs programmes de rénovation urbaine d'ampleur dans le cadre du programme de rénovation nationale des quartiers en difficulté. Et donc ce que souhaite effectivement la collectivité, c'est de le rendre de nouveau attractif. C'est un quartier qui présente quand même de nombreux atouts, il y a beaucoup d'espaces verts, beaucoup d'espace pour les piétons, le tram arrive au pied des résidences, il y a pas mal d'équipements de proximité, donc effectivement, a priori, ça semble être un quartier particulièrement intéressant. Mais il souffre d'une image très dégradée et stigmatisée. C'est un quartier qu'on a laissé se paupériser et donc ce qui ressort le plus souvent, c'est l'insécurité. Et puis, des questions d'insalubrité, avec une population habitante qui a quand même quelques problèmes de santé importants. Et donc, c'est aussi un quartier qui est assez bétonné par le fait de ces grands ensembles et du coup, souffre d'îlots de chaleur. Donc, la collectivité qui réunissait à la fois la ville de Grenoble, la ville des Chirolles et la métropole de Grenoble, dans le cadre de ces projets de rénovation, ayant eu écho qu'il était possible de mener des démarches qui pouvaient intégrer la santé dans le cadre de projets de rénovation, se sont dit que ce serait peut-être un terrain intéressant pour voir comment on pouvait effectivement intégrer la santé en amont de ce projet de rénovation. Et donc c'est dans ce cadre-là que les collectivités ont souhaité mener cette démarche.
Alors, comment le IS a-t-elle été menée et quel constat a-t-elle mis en évidence?
Alors, une IS, c'est une démarche qui est très structurée, qui du coup a plusieurs étapes et donc on a effectivement créé un comité de pilotage pour essayer de mener à bien cette démarche. Et donc la première chose qu'il est intéressant de faire, c'est de regarder quels sont les déterminants de la santé qui sont à enjeu sur le territoire que l'on souhaite étudier, parce que l'intérêt de mener une démarche d'évaluation d'impact sur la santé, c'est de regarder à travers les différentes options du projet ce qui pourrait avoir un impact positif sur la santé et ce qui, à contrario, pourrait avoir des impacts négatifs. Et l'autre intérêt majeur, c'est que on regarde à travers les groupes de population comment se répercutent ces impacts. On n'est pas tous égaux devant les impacts sur la santé, et de fait, ça permet effectivement de bien prendre en compte les inégalités sociales de santé. Donc cette EIS a été menée sur le territoire avec plusieurs représentants, à la fois des collectivités, mais aussi des habitants, des acteurs de terrain, de façon à essayer de regarder à travers les options du projet de rénovation ce qui pouvait être favorable et ce qui pouvait l'être moins. À partir de là, on a effectivement regardé tout ce qui, dans le quartier, pouvait sembler positif ou négatif. Et donc, on s'est intéressé à 4 grands déterminants de la santé. Ce qui a été intéressant, c'était de regarder tout ce qui concernait les espaces verts, les places publiques, puisque, je vous ai dit, c'était quelque chose qui était quand même assez présent sur le quartier. Tout ce qui était mobilité, réaménagement des accessibilités, et tout ce qui était offre de commerce et de services, et bien sûr un sujet transversal qu'on retrouve régulièrement dans les EIS, c'est ce qui concerne la mixité sociale.
Très bien. Quel bilan dressez-vous d'une évaluation d'impact sur la santé dans le cadre d'un projet programme de rénovation urbaine?
Alors, au niveau de cette EIS, c'est-à-dire sur ce territoire-là, parce que très souvent, les EIS sont quand même très fondus dans le projet lui-même, même si c'est une démarche qui est très structurée. On regarde vraiment de façon précise quelques options, quelques lignes du programme, de manière à bien regarder. Donc, sur ce territoire-là, on voyait bien qu'il y avait effectivement des choses très positives qui apparaissaient. C'est un quartier qui est quand même très vert, avec un immense parc. Il y a quand même de l'entraide, il y a de la mixité déjà sociale. Il y a cette volonté d'aider les gens et d'aller vers les autres. Mais à contrario, quelques problèmes d'insécurité, d'insalubrité, une espèce de... C'est un quartier qui est complètement coupé un peu du reste du monde, qui est comme un îlot fermé. Et donc l'idée, c'est vraiment d'essayer de l'ouvrir à l'ensemble du reste des villes qui sont alentours, parce que ça reste quelque chose qui est très fermé, parce que ces grandes barres, en fait, font une espèce de rempart et font que le quartier n'est pas visible de l'extérieur. Donc ça, c'était les points qui étaient plutôt négatifs. Et donc, voir comment on pouvait ouvrir ce quartier, lui redonner une image positive, et qu'est-ce qui aurait vocation à faire que les gens, d'ailleurs, reviennent dans ce quartier et profitent des avantages de ce quartier.
Très bien. Alors, vous avez parlé effectivement de l'implication de la ville de Grenoble, de la ville d'Échirolles et de la métropole. D'une manière plus générale, quelles recommandations, selon vous, peut-on formuler pour que les collectivités assurent la continuité de ce type d'exercice sur le long terme?
Alors, il y a un point qui a été intéressant au niveau de la méthodologie de cette EIS, c'est que on a associé vraiment l'ensemble des services des collectivités, les habitants et les acteurs de terrain pour une fois que les déjà pour créer les recommandations. Une fois que les constats ont été mis en évidence et les enjeux présentés, un exercice de co-construction des recommandations a été fait. Et donc, ça a été fait lors de séminaires de travail où tout le monde était autour de la table et essayait de mettre en avant ce qu'il pensait pouvoir apporter de mieux sur le quartier. Donc, il y a eu une co-construction de ces recommandations. Au final, il y en a eu 47. Donc déjà, les services ont été impliqués dans cette co-construction. Et ensuite, il y a eu une deuxième étape où on leur a demandé de hiérarchiser ces recommandations de façon à ce que certains critères à la fois économiques, de temporalité, de portage politique, de faisabilité technique aussi, soient pris en compte. Et donc, les services ont déjà travaillé ensemble pour hiérarchiser ces recommandations. Donc déjà, à ce niveau-là, quand on les implique dès le départ à l'ensemble de la démarche, on a déjà une implication beaucoup plus importante. Et puis, un point intéressant aussi, c'est que dans le cadre de cette rénovation, les commanditaires, grâce à l'EIS, ont décidé de faire en sorte que ce quartier urbain, qui est un quartier urbain de qualité, devienne le premier écoquartier populaire de la région. Et donc, l'intérêt de cette labellisation a fait qu'effectivement, ça a apporté une dimension santé et bien-être, bien au-delà des questions de développement durable. Et donc, ça a permis de faire prendre conscience aux acteurs qu'il est possible d'avoir des objectifs communs et de travailler ensemble. Alors même si parfois ça bouscule un petit peu le ressenti et la façon de travailler de certains, cette co-construction permet quand même une transversalité et ça permet d'aller de l'avant pour faire accélérer les choses. Donc je pense que cette co-construction des recommandations a beaucoup aidé. Ensuite, les recommandations ont été reprises dans les documents officiels de la démarche de labellisation et donc ça devient des véritables indicateurs. Pour ce qui est du suivi, ça va pour l'instant, ça risque de malgré tout rester encore un peu complexe parce que ça implique que chaque acteur fasse un retour sur la partie dans laquelle il était concerné, impliqué dans une des recommandations. Donc c'est pas toujours simple. Il faut vraiment qu'il y ait une personne ou un service qui soit moteur et qui prenne la peine de relancer les autres acteurs, de faire le point régulièrement et d'amener effectivement un bilan régulier de l'avancée de ces recommandations. Sur certaines EIS, une personne porteuse va faire le travail et c'est vrai que ça a un côté intéressant parce que ce suivi est indispensable pour voir au final la réalité de l'exercice et du fait d'avoir mis en place une EIS, ce que ça va apporter, quels auront été les freins dans la mise en place de certaines recommandations ou au contraire comment certaines auront été favorisées et ce que ça au final aura rapporté à l'ensemble du projet.
Merci beaucoup, Lucie Anzivino, pour ce retour d'expérience inspirant.
Merci.
L'émission se termine. Je rappelle aux auditeurs que vous êtes chargé d'études auprès de l'Observatoire régional de santé Auvergne-Rhône-Alpes et qu'ils pourront vous réécouter et télécharger cette émission sur radio.cnfpt.fr. Au revoir à toutes et à tous et à bientôt pour une prochaine émission.
Merci beaucoup, au revoir.
Oxygène. Les grandes causes nationales qui font débat.